Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse, ou en streaming où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 13 décembre 2018. Il est 18h, derrière la vitre, François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François, on est ensemble jusqu'à 19h, dans Rien à voir quoique. L'histoire du théâtre de la Cité commence en 1945 avec la création du Grenier de Toulouse. Compagnie de Maurice Sarrazin, alors abritée dans une mansarde. C'est en 1987 que le théâtre prend le nom de Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées, plus connu pour les Toulousains sous l'acronyme TNT. Le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui, conçu par l'architecte Alain Sarfati, est inauguré lui en 98. Plusieurs directeurs se succèdent alors et en janvier 2018, une nouvelle direction commence par redonner au théâtre son nom d'origine, le Théâtre de la Cité, pour en faire, je cite, « the place to be » au cœur de la cité avec un amphithéâtre de 888 places, la salle bleue, un petit théâtre de 250 places habillé de bois sombre nommé Cube, C-U-B pour incubateur, un studio de 72 places, propice aux formes brèves et aux lectures, offrant un répertoire à la fois classique et contemporain, de théâtre mais pas que, avec de la danse, de la poésie, des arts du cirque et des spectacles tout public. Le théâtre de la Cité veut et va devenir une ville à part entière, un lieu dans lequel se côtoient les artistes, les professionnels et le public, et pas seulement les soirs de spectacle, avec un restaurant en salon de thé, une librairie, un marché de créateurs, des goûters partagés, un vide-placard, des expositions, des soirées et des concerts. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon invité, Galine Stoeff, le nouveau directeur, l'artiste directeur du Théâtre de la Cité, qui est aussi metteur en scène de la comédie dramatique Insoutenable Longues Étreintes, pardon, qui se joue en ce moment et jusqu'au 21 décembre à 20h au Théâtre de la Cité à Toulouse. Bonsoir, Galine Stoeff.
Bonsoir.
Merci
bonsoir.
Beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM alors que votre pièce joue en ce moment.
En fait, la pièce commence dans
2 heures.
2 heures,
pile poil. Alors, vous avez fait vos études à Sofia, en Bulgarie.
Ouais.
Vos débuts remarqués, dit-on, en tant que comédien et metteur en scène, vous mènent dans divers lieux en Europe et dans le monde. Et puis, vous signez à ce moment-là plusieurs mises en scène. En 2005, vous créez votre propre compagnie, Figenprint. Alors là, vous êtes basé à Bruxelles.
Oui.
Et alors, bon, vos collaborations et vos créations théâtrales sont bien trop nombreuses pour les citer. Vous avez fait un film aussi,
ouais.
De cinéma, non, vous rigolez, qui s'appelle The Infinite Garden.
The Infinite Garden, le jardin infini, en Bulgarie.
En Bulgarie, dans votre langue natale.
Tout à fait, et qui est sorti en salle en Bulgarie
en
octobre. Non, pas en France, parce qu'on n'a pas un distributeur international. Alors, s'il y a un distributeur international qui cherche encore un film à réaliser dont personne n'a besoin, bah, il peut nous appeler, on est au Radio Campus.
Voilà. Super. Et puis vous enseignez, alors je ne sais plus si vous avez le temps maintenant d'enseigner, à Londres, Manchester,
pas, ouais.
À Ljubljana, à Sofia, et puis aussi à Paris, à Marseille, à Moscou, sous la forme de masterclass.
Oui, des stages, oui.
Encore un petit peu
Là, depuis
janvier,
je ne le fais plus. Mais bon, dès qu'il y a une possibilité, oui, j'aime bien l'idée de transmission.
Et donc, alors voilà, nous y voilà, vous prenez la direction du Théâtre de la Cité, donc en janvier, aux côtés de Stéphane Gilles, directeur délégué avec le projet, je l'ai dit déjà, d'une véritable métamorphose du lieu, d'un théâtre ouvert vers l'extérieur, en y faisant souffler, ça c'est Ramdam qui l'écrit, un vent de bienveillante intelligence, en voulant casser les frontières qui éloignent le théâtre de la cité. C'est ça? Ça vous va?
Tout à fait. C'était un peu tout ce qui m'animait et qui était dans la genèse, dans l'origine du projet. Mais c'est parti d'une idée extrêmement simple. En fait, je me suis dit, c'est quoi le théâtre idéal où j'aimerais bien être accueilli autant comme artiste? Et puis, ça sera quoi le théâtre idéal où j'aimerais bien être accueilli comme spectateur aussi? Et en essayant de construire ce rêve ou de le concrétiser ou le matérialiser ou le faire descendre dans la matière, on est arrivé au fait de postuler pour la direction d'un théâtre et d'être accueilli tellement bien à Toulouse, au Théâtre de la Cité, qui est, ce qu'il ne faut pas oublier dire, c'est en fait c'est un centre dramatique national. Ça veut dire c'est un théâtre qui est consacré à la création et normalement un CDN, un centre dramatique national. La direction est confiée à un artiste.
C'est important de le dire, c'était dans ma deuxième partie, là je voudrais revenir sur votre pièce et sur vous. Vous n'avez pas longtemps hésité entre la comédie et la mise en scène, de ce que j'ai lu.
Non, pas vraiment. Non, mais je ne pense pas que j'étais vraiment un comédien remarquable ou intéressant.
Vous dites que d'autres le font mieux que vous.
Tout à fait. Voilà, ça j'ai compris très très vite. En plus, moi j'ai découvert la notion de la mise en scène assez tôt. J'avais, je pense, 14 ou 15 ans. Et pour la première fois, j'ai pendant une répétition dans un petit théâtre pour enfants dans ma ville natale, Varna, en Bulgarie, d'un petit accident, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait derrière tout ce qu'on voit sur une scène, il y a quelqu'un où il y a une pensée, où il y a quelque chose qui anime tout cela et qui n'est pas forcément visible, mais qui est l'inventeur de tout ce qu'on est en train de regarder. Et ça m'a paru tellement fort, tellement incroyable, le fait de posséder d'un tel pouvoir entre ses mains et de partir d'une idée qui est immatérielle, qui est invisible, et qui peut descendre dans la matière et devenir vraiment un objet partageable avec les autres. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Après, mon ego d'ado me disait, mais si tu fais ça, tu seras pas sur scène. Et alors, quand t'es sur scène, si t'es pas sur scène, tu seras pas adoré. Parce qu'à cet âge, tu penses qu'il suffit d'être sur scène pour que tout le monde te regarde et t'adore. Moi, je savais pas à cette époque que tu peux te faire juger aussi. Voilà.
Vous avez joué?
Oui, bien sûr. J'ai fait quelques films en Bulgarie aussi, autant comme comédien. Mais...
Alors, la rencontre avec Ivan Viripaf, auteur de la pièce Insoutenable longue étreinte, elle est déterminante dans votre parcours. J'ai lu que vous parlez d'un irrépressible amour pour cet auteur russe et pour le personnage, j'imagine.
Oui, c'était assez particulier. En fait, c'est une écriture étrange, je dirais bizarre, étonnante. Qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile à cerner vraiment. Et ma première rencontre était aussi étrange parce que, comme je le dis souvent dans des entretiens, moi j'étais en train de lire son premier texte en Allemagne. En plus, c'était un Allemand qui m'a donné un texte en russe. Et je suis en train de lire et je comprends absolument rien parce que c'est écrit contre toutes les règles possibles de la dramaturgie, même dramaturgie contemporaine. Et en même temps, mon corps réagissait vraiment à ce que je recevais. Il y avait une autre connexion qui se faisait sur un autre plan, sur un autre niveau. Et comme je savais pas du tout comment on peut mettre ça en scène, je me suis dit, je vais faire une mise en scène pour vérifier. Ça a commencé comme ça.
C'était
les rêves, tout à fait, ouais.
Donc ça, c'était en 2002, après il y a eu Oxygène.
Oui.
Et dans ce délit, c'est...
Oxygène, Genèse 2, qui était créé à Liège, qui était présenté au Festival d'Avignon. Puis il y avait Dans ce délit, puis il y avait Illusion, puis il y avait, je pense, Insoutenable longues étreintes.
Donc pour vous, c'était une évidence de mettre en scène ce texte-là, ce nouveau texte?
Oui et non, parce que depuis qu'on s'est rencontré avec Ivan, quand il écrit un nouveau texte, il me l'envoie. Il y a certains que j'aime moins que les autres. Je mets pas tout en scène et je prétends pas d'être le seul qui sait comment mettre en scène ces textes. Mais certains de ces textes me touchent énormément, y compris Insoutenable longues étreintes, qui était traduit déjà depuis 2 ans, je dirais, ou 1 an.
Et c'est pas vous qui l'avez traduit ?
Si, si, si.
Ah oui.
Si, avec un collaborateur francophone qui parle le français comme il faut. Mais moi, en fait, j'étais plutôt sur la langue russe. Comme j'ai grandi à Moscou, je parlais la langue. Alors, on a fait à quatre mains. On a travaillé la
traduction. Au départ, il est écrit en russe, ce texte ?
Oui, il est écrit en russe, oui.
J'ai cru que c'était en polonais.
Non, en fait, il est russe d'origine, mais il habite en Pologne parce que sa femme est polonaise. C'est une comédienne assez connue en Pologne. Voilà, il est entre les deux, mais il écrit en russe. Oui. Et là, comme on avait traduit le texte, mais on n'arrivait pas à trouver un producteur pour ce texte. C'était avant que je postule pour la direction du TNT à l'époque, Théâtre de la Cité aujourd'hui. Et ce texte, il me travaillait tout ce temps, alors que je n'arrivais pas à convaincre un producteur.
Alors que vous aviez déjà mis en scène de nombreuses pièces d'Ivan.
Oui. Après, bon, j'ai pas fait le tour de tous les théâtres possibles. Je l'ai envoyé à 2-3 personnes et comme j'avais pas de retour, je me suis dit, oh, je vais pas frapper à tout prix toutes les portes. Mais dès que j'ai eu le théâtre, je me suis dit, bah voilà l'occasion de commencer avec ça. Et je sais que c'est un choix pas évident, justement parce que normalement, quand tu débarques dans une nouvelle maison où personne ne te connaît, quand tu débarques dans une ville où personne ne te connaît, quand tu dois faire connaissance et te présenter, ben, ça serait bien de, voilà, en dehors du fait d'être poli et gentil, de présenter quelque chose qui est fédérateur quand même pour tout le monde. Et là, moi, je débarque avec quelque chose qui est juste le contraire. Ça veut dire, on pose un geste artistique, je dirais, fort et catégorique. Mais c'est pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Et c'était vraiment l'enjeu pour moi de me lancer dans des choix qui sont pas faciles, qui sont pas évidents, mais si on réussit à le faire, on réussit vraiment. Voilà.
Et ça plaît parce qu'elle est jouée depuis plus d'une semaine maintenant?
Ben, c'est complet en fait depuis le début. Et c'est complet, une partie parce que ça fait partie de l'abonnement. Mais je pense qu'il y a, une vraie curiosité de la part du public de découvrir mais c'est qui ce bulgare, mais c'est qui ce directeur, mais c'est qui cet auteur. Voilà. Et je vois les gens des générations différentes qui sont confrontés à cet objet bizarre, étrange, inspirant, taquinant. Voilà. Tout ça ensemble. Et j'ose dire que la plupart des gens sont véritablement touchés à un endroit sensible qui est surprenant aussi. Et le texte et l'objet en soi les travaillent et ouvrent en fait des pistes, des perspectives de se reconnecter, de parler ensemble. Hier soir, on a eu un bord de scène et
c'est quoi un bord de scène?
C'est après le spectacle, il y a les comédiens qui ressortent et il y a le metteur en scène et il doit s'expliquer auprès des gens qui ont décidé de rester encore un petit peu dans la salle.
C'est à chaque représentation?
Non. Ça se fait une ou deux fois sur la série. Mais en fait, c'est rencontre avec le public. Et si les gens ont des questions, voilà, c'est dans un dialogue assez informel. Et ce que j'ai remarqué hier, c'est que ce qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir, c'est que il y avait toutes les générations possibles. Et les gens se parlaient en dehors de tout ce qui nous conditionne comme goût, génération, penchant, etc., etc. Ça veut dire qu'on arrivait à se retrouver à un endroit où on est prêt à dépasser tout ce qui nous sépare et tout ce qui nous confronte normalement. Et là, je me suis dit, ben, ça fait sens de faire tout ça.
Alors, on va parler de la pièce pour les auditeurs. Donc, insoutenables longues étreintes, ce sont les trajectoires de quatre personnages, deux femmes, deux hommes, trentenaires, nés en Europe de l'Est, Pologne, République tchèque, Serbie. Ça se passe de nos jours entre New York et Berlin. Ça parle d'avortement, de drogue, de tentatives de suicide, de mort, de régime vegan. Beaucoup de sexe dans une quête effrénée du désir à tout prix. En manque de repères, les personnages se croisent, se séduisent, se perdent, incapables de s'ancrer dans la vie. On écoute tout de suite la bande-annonce.
C'est l'intuition.
C'est quoi ?
C'est l'impulsion.
C'est l'impulsion.
N'aie pas peur, c'est tout à fait naturel.
C'est ainsi que l'univers a commencé.
Il y a eu une impulsion, et hop,
le mouvement a commencé.
Oh mon Dieu, c'est comme un orgasme.
Non, c'était l'impulsion.
tellement agréable.
C'est la cause qui fait que tout est en mouvement.
C'est pourquoi tu existes.
C'est pourquoi il y a de la vie.
C'est pourquoi il y a de l'orgasme.
C'est pourquoi tu vis.
C'est l'impulsion.
C'est la sensation la plus inattendue que j'ai jamais connue.
Maintenant, tu viens de ressentir l'impulsion.
Chacun de tes mouvements, toutes tes pensées et tes actions
reviennent de l'impulsion.
On sent que maintenant, l'événement le plus incroyable de ma vie vient de se produire.
L'impulsion, c'est l'événement le plus important de l'univers.
Je me sens complètement, véritablement vivante. Autour de moi, tout est tellement vivant. Je sens la vie. Je vis.
Alors les quatre comédiens, on s'en rend pas vraiment compte dans ce teaser, en fait, racontent leur personnage, racontent leur histoire à travers un flux de paroles. Parfois ils communiquent entre eux, mais souvent ils emploient la troisième personne avec l'adverbe de lieu là qui revient sans cesse. Vous parlez de talk show. Est-ce que c'est spécifique à la dramaturgie de Viripaf?
C'est une porte d'entrée, mais c'est pas vraiment vraie explication de ce qui se passe. Mais ce qui est particulier dans cette écriture ou dans cette pièce, c'est que en fait les comédiens n'incarnent pas véritablement les personnages. Ils les racontent tout le temps. C'est pour ça qu'ils y parlent en troisième personne souvent. Et il y a un là qui revient à chaque fois, qui dans le texte. Dans le texte, en fait, original, c'est plutôt maintenant. Mais comme en russe, il dit «сейчас», et dans «сейчас», il y a un clou qui te fait revenir au moment présent. On s'est dit que maintenant, c'est un peu trop élaboré, et on a commencé de mettre là.
Ça marche bien,
pour syncoper un peu la manière dont on regarde, dont on écoute.
On entend même la virgule.
Après. Ouais, tout à fait. Parce que c'est aussi comme une partition un peu presque musicale, mais qui doit être incarnée d'une manière organique, véritablement. Et finalement, les comédiens, tout ce qu'ils doivent faire, c'est pas forcément de jouer, mais de raconter une histoire, mais surtout de modeler et de manipuler la manière dont le public écoute et regarde. En fait, dans l'idéal, le vrai spectacle se passe chez vous, et dans vos ventres et dans vos têtes. Et sur scène, on a des travailleurs qui font en sorte que le spectacle ait lieu chez vous.
Alors, vous en avez déjà parlé, hein, vous avez traduit ce texte en travaillant, je vous cite, sur l'oralité, la mise en bouche des mots en français et la préservation de ce rythme, de la structure. Vous parlez d'un processus laborieux, on peut le comprendre, qui est déjà un acte de mise en scène. C'est-à-dire, quand vous avez traduit ce texte, vous pensiez déjà à la mise en scène?
Non, je dirais pas, mais c'est comme la traduction. La mise en scène, comme la traduction, c'est en fait c'est la capacité de faire des choix. Et de prier tout le temps comme quoi c'est des bons choix. Parce que tu peux le vérifier finalement en regardant le spectacle avec le public. Pareil pour la traduction. Moi, j'ai eu de la chance de mener un stage professionnel avec des comédiens où j'ai pu en fait vérifier le texte en comment il fonctionne pendant des essais avec les comédiens.
En français.
En français, oui, tout à fait. Et ça s'est passé un peu après qu'on a terminé la traduction, mais ça nous a aidé énormément de choisir, parce que jusqu'au dernier moment, il fallait faire des choix entre des expressions, des mots qui étaient justes, mais qui n'arrivaient pas à rentrer dans la bouche du comédien, qu'il trouvait un peu laborieux ou difficile ou pas tout à fait naturel pour dire. Et là, ça s'est fait, voilà, on a fait ça à quatre mains, mais aussi il y avait tout un groupe de comédiens qui ont fait ce stage et de deux semaines. C'était un stage AFDAS, c'était aussi une occasion de rencontrer des comédiens pour qu'ils puissent me rencontrer moi. Et en fait, au sein de ce stage, il y avait ces quatre comédiens que moi je connaissais pas. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis on a créé une lecture et puis on a commencé à travailler sur la sur la mise en scène.
D'ores et déjà, dans ce titre, Insoutenable, longues étreintes, je crois que c'est... Enfin, je ne parle pas le russe, mais c'est la traduction.
Non, c'est pas... En fait, le vrai titre, c'est Insoutenablement, longues étreintes. Mais on m'a dit qu'en français, c'est pas possible.
C'est déjà un paradoxe en soi, comme si les longues étreintes pouvaient être insoutenables. Alors, on pense à Milan Kundera avec l'insoutenable légèreté de l'être.
Oui.
Vous y avez pensé, j'imagine?
Bien sûr, ça vient de là. Même si, en fait, en russe, tu peux le traduire comme insupportablement longues étreintes ou insoutenablement longues étreintes. Moi, j'ai trouvé qu'insoutenablement, c'était plus poétique et ça faisait référence à Kundera, et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et puis, insoutenablement, c'est sur la longueur, pas sur les étreintes. Mais ça, voilà, ce détail, on s'est dit, on peut pas faire plus passer.
Alors, il y a la voix de l'univers, on l'a entendu dans la bande-annonce, qui se met à résonner dans la tête des personnages, une voix tendre, drôle aussi, parce que c'est pas toujours drôle, la pièce,
ouais.
Qui vous sert d'outil dramatique. C'est quoi cette voix de l'univers?
Ben justement, si je savais, si seulement je savais. En fait, à la fois, ça peut être lu différemment. C'est une voix qui apparaît dans la tête de chaque des personnages et tout d'un coup, sans crier garde, commence à discuter avec eux. Ben, normalement, quand tout le monde, les gens se disent, les personnages se disent, ben, je suis en train de péter un câble. Elle pose la question à la voix, mais c'est qui me parle? Tu es qui? Et la voix dit, soit, selon le personnage, imagine, tu peux pas prononcer mon vrai nom dans ta langue, alors imagine que c'est l'univers qui te parle. Ou bien il dit, je suis un être vivant d'une autre galaxie, apparu à l'intérieur de toi pour te rendre vivant. Et en fait, il faut décider là, chacun doit décider. Est-ce que c'est la voix intérieure? Est-ce que c'est la voix de l'univers ou c'est carrément des extraterrestres qui sont en train de nous envoyer, de débarquer à l'intérieur de nous? Comme c'est jamais vraiment précisé, ça nous laisse un peu de marge de distance pour placer notre propre commentaire et regard, pour découvrir aussi l'ironie à l'intérieur. Et comme tout le texte fait constamment des allers-retours entre, je dirais, le sacré ou le spirituel et le vulgaire, en fait, le sens réside dans ce mouvement, dans ces allers-retours, et pas dans un point précis.
Comment vous l'avez mise en scène, cette voix? Visuellement, c'est pour les auditeurs, parce que moi j'ai vu la pièce, mais je ne saurais pas bien décrire.
C'est impossible de le décrire, il faut venir le voir, hein, même si c'est complet. Mais il faut essayer, parce que chaque jour, il y a des gens qui ne viennent pas à cause des grèves, des manifestations. Mais comment dire ça? En fait, encore une fois, c'est les comédiens qui jouent, et le personnage et la voix à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce mouvement et aller-retour.
Il y a la vidéo, il y a des grands portraits qu'on voit derrière eux.
Mais vous voulez raconter tout, en fait. oui, complet. au bout d'un moment, il y a la vidéo qui intervient, mais tout ça, c'est en fait, bon, la vidéo, qui est aussi une grande question dans le théâtre contemporain aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pour moi comme le son, comme la lumière, comme le décor. Ça veut dire que c'est un outil qui doit intervenir pour souligner en fait l'action vivante qui se déroule ici et maintenant, là, comme on dit dans la pièce. Alors on s'en sert, de tous ces outils justement pour dessiner encore plus clair ces allers-retours et ces passages qui sont en fait un dialogue intérieur, et je pense que chacun en fait a la voix de l'univers dans sa tête. Après, on deal différemment chacun avec cette voix.
Alors, vous parliez des comédiens, je vais les citer parce qu'ils sont quand même époustouflants.
Hein. Ouais, ils sont vraiment bien.
Pauline Desmet, Sébastien Evenot, Nicolas Gonzalez et Marie Kaufmann. Donc, c'est une performance d'acteur incroyable. Le spectacle dure 2 heures.
1h48.
1h48. on la voit pas passer cette heure. C'est vrai que le texte est volubile, répétitif, ultra rythmé. Donc, ouais. Vous aviez dit, vous les connaissez pas, ces comédiens. Comment s'est passé ce travail avec les 4 comédiens?
Gentiment, je leur ai dit que je dois chercher avec eux, même si je savais depuis le début comment il fallait faire. Et puis, ce que j'ai fait, c'est gentiment, j'ai rentré dans leur tête en faisant la voix de l'univers, hein, petit à petit. Mais j'ai l'impression que pendant un mois et demi, pendant les répètes, je faisais pas vraiment la mise en scène, mais je travaillais sur leur compréhension, leur propre compréhension de la matière. Parce que ce qui était très important pour moi, c'est de ne pas créer une forme où on apprécie les comédiens en se disant que comme ils jouent bien, ah, quelle mise en scène ou quel décor et tout ça. On s'en fout finalement. En fait, si on arrive à créer une mécanique qui fait en sorte que l'imaginaire du spectateur se déclenche et commence à donner naissance à des choses magnifiques et à des choses monstrueuses, là ça marche, parce qu'il faut pas oublier que sur scène on a quatre comédiens ou quatre personnages, mais il y a un cinquième personnage qui est le spectateur en face, avec qui on travaille constamment. Voilà. Peut-être ça sent un peu laborieux ou prétentieux quand, si on connaît pas le spectacle. Mais c'est vrai que c'est un endroit assez particulier, mais assez jouissif si on est au bon endroit tous. Au rendez-vous.
Alors, la pièce est déconseillée au moins de 16 ans, donc je ne spoilie pas, hein, je le dis. Non pas qu'elle soit violente, mais le texte est cru, notamment sur les questions de drogue et de sexe, que les personnages consomment comme n'importe quel produit. Quel est là le parti pris de l'auteur et par conséquent le vôtre?
C'était une grande discussion au sein de l'équipe. En fait, l'auteur, il déconseille rien, en fait. Il écrit son texte, voilà, il le laisse dans le monde. Mais pour nous, vu le fait que on prend, en fait, avec ce choix, moi, personnellement, je prends énormément de risques. Déjà lancer le nouveau projet au Cube, participer dans l'inauguration du Cube, qui est le petit théâtre qui est devenu l'incubateur créatif, où on consacre le temps et l'espace aux équipes pour chercher, pour produire, et on programme des spectacles qui sont passés d'une manière ou d'une autre par le Cube, par une résidence dans le Cube. Ça veut dire que le prise de risque est différente. Ça veut dire qu'il faut initier le public à tout ce qui reste invisible derrière une création. Ça veut dire qu'il faut expliquer au public que ils sont là pour nous suivre et prendre aussi le risque d'être déçus, d'assister à quelque chose qui peut-être peut leur faire peur, mais aussi d'assister à la naissance d'une vraie perle et d'être au sein de cette créativité qui se déploie sous une forme parfois inattendue, mais qui peut produire quelque chose de nouveau. Et puis je débarque avec un texte contemporain en plus. Et avec tout ça, au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les scolaires? Parce que, voilà, au théâtre.
Ils sont petits, ouais,
c'est, voilà. Et on a commencé une discussion. Au départ, on s'est dit, peut-être à partir de 14 ans, ils peuvent venir. Pendant une répète, moi, j'essaie de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a 14 ans. Et je me dis, mais c'est pas possible de leur dire ça, c'est pas possible. Après, je me dis, mais en même temps, ils ont accès à des choses, mais pas possibles sur Internet, voilà, et ils sont pas surveillés, ils voient tout. Et après, je me suis dit, mais la question n'est pas est-ce qu'ils sont au courant des dernières drogues ou comment faire un bébé ou comment avorter et tout ça, mais plutôt, est-ce qu'ils vont être au bon endroit pour écouter ça? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés pour vraiment comprendre le message qui passe à travers des filtres qui sont pas évidents, parce qu'on parle tout le temps de drogue, de violence, de sexe, de nourriture végane aussi pour l'humour, mais en fait ce qu'on fait, c'est on essaie de dessiner un peu l'état du monde actuel dans lequel ces enfants grandissent. Ça les entoure, mais ça veut dire pas qu'ils le comprennent ou ça veut dire pas qu'ils n'ont pas besoin d'une traduction ou d'être accompagné d'une manière adéquate. Et là, on s'est dit, non, pour éviter aussi des ronds avec des ados qui ricanent ou qui rigolent quand il y a un grand moment, je me suis dit, non, essayons un peu d'être un peu plus adéquate. Ça vient de là, mais sinon, je pense qu'il n'y a rien vraiment d'horrible qui est
dit pour présenter. J'ai cru, c'est juste cru.
Tout à fait.
Rien à voir quoique, en juin dernier, vous étiez au musée des Augustins pour un réveil créatif, oui. Vous en souvenez. Donc c'est le rendez-vous matinal autour d'un petit déjeuner dans différents lieux de la ville. Et dans ce réveil créatif, vous évoquez un de vos professeurs de théâtre à Sofia, qui vous disait que le théâtre est quelque chose de complètement inutile. Ce ouais. à quoi vous, vous réagissiez en disant, mais justement, parce que c'est inutile, cela permet de créer de la beauté. C'est ça pour vous le théâtre, Galine Souef, créer de la beauté?
Je pense que si une société peut se permettre quelque chose tellement inutile comme le théâtre, ça veut dire qu'on vit dans une époque où tout se mesure par une valeur, comment dire, matérielle, je dirais.
Y compris le bonheur.
Oui, tout à fait. Et il faut mesurer ça, et il faut savoir combien ça coûte, en euros, en dollars, etc., etc. Et une société qui peut se permettre quelque chose qui peut pas se mesurer, c'est une société qui peut survivre ou qui a le droit de survivre, je pense. Et aujourd'hui, justement, j'ai assisté à une rencontre avec des jeunes, des gens étudiants qui ont vu la pièce. Et on a parlé du fait que l'être humain est quelque chose de tellement complexe et traversé par des sentiments tellement complexes pour lesquels il n'a pas des mots, il n'arrive pas à les nommer, il n'arrive pas à les cerner. Et quand tu n'arrives pas à cerner ou nommer, à identifier ce que tu ressens, en fait, il y a une brèche où il y a un gouffre qui s'ouvre en toi, et en fait, tu es séparé de toi-même et tu deviens malheureux. Et c'est pour ça que c'est très important de lire la poésie, par exemple, parce que la poésie nomme des ressentis complexes ou paradoxales qu'on est en train de vivre ou se faire traverser par ces ressentis. Et alors, ça c'est quelque chose de profondément utile, mais comment mesurer le prix ou le valeur de la poésie? C'est quelque chose de complètement inutile, immatériel. Le théâtre c'est pareil. Et je pense qu'il faut conscientiser les gens de plus en plus sur les valeurs invisibles, justement parce que on est plein dans la matière et c'est difficile de traverser cette époque aujourd'hui et je pense que le théâtre peut nous procurer des bouffées d'oxygène et voilà et la beauté en soi, la beauté elle est inutile, elle sert à rien, on peut vivre sans beauté, sauf que quand on est confronté à la beauté, en fait tout vient à sa place tout d'un coup et le monde devient gérable et supportable.
Et en même temps, plus loin dans ce même réveil créatif, vous dites que le théâtre est indispensable. Et ce qu'on peut lire dans l'édito de votre première programmation au Théâtre de la Cité, je vous cite encore, je rêve d'un théâtre ouvert, démocratique, utile.
Ouais. Bah c'est un de mes délires. Je le dis souvent, mais je pense que aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, on nous injecte de plus en plus la sensation comme quoi on est connecté tout le temps. Et à force d'être connecté tout le temps, on est à côté l'un de l'autre, on se regarde pas et on regarde nos tablettes et nos portables. Et en fait, c'est pas vraiment la connexion, c'est une illusion d'être connecté. Et quand tu es dans cette illusion, en fait, tu te sens rassuré, mais tu ne te sens pas moins seul, au contraire. Et en fait, cette solitude, elle augmente de plus en plus. Et le théâtre, aujourd'hui, c'est un des rares endroits où encore, légalement, on peut partager le moment présent ici et maintenant. Pourquoi ?
Et on éteint les portables.
On éteint les portables et on est obligé, en tout cas par le cadre, de partager le même espace-temps. Par la simple force de regarder la même chose et d'être forcé de se positionner par rapport à ce qu'on regarde. Ce que moi j'appelle la place du spectateur, la place du regard actif. Ça veut dire que tu places le spectateur à un endroit où il est obligé à chaque instant de faire des décisions. Pas de s'endormir, ni de consommer tout simplement l'art comme chez McDo, comme dans un resto, je sais pas où on va, on paye, on bouffe. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, et on se casse. Et dans un cadre un peu conventionnel, je dirais, de théâtre, hein, On est habitué de faire justement ça. J'ai payé, je me tais dans le noir, ça me plaît, ça me plaît pas, ou je passe un bon moment en m'endormant en écoutant l'Alexandrin, et puis je me barre. Ça, c'est un peu la chose qui repousse aussi les jeunes. Parce que dans leur tête, j'imagine, bon, je suis en train de faire une caricature pas possible, mais j'imagine que pour eux, c'est quelque chose de chiant.
Voilà. Ça peut, parfois.
Oui. Et c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important de proposer justement une place au spectateur où il regarde. On n'intervient pas, les comédiens vont pas dans la salle, s'assoient pas sur les gens. Voilà, on est loin de ça. Mais on considère le spectateur comme partenaire et pas comme quelqu'un qui va se taire, tout simplement.
Qui consomme.
Oui, voilà.
Merci, Galen Stoff. Stoff, non, ouais. Mais non, c'est pas comme ça qu'on dit.
Tout à fait, tout à fait.
Enfin, le vœu se prononce feu. J'ai appris Stoff, ça aujourd'hui. On se retrouve après un morceau de Damien Rice. Le morceau s'appelle Volcano. Il a aussi un rôle dans la pièce insoutenable, Longues étreintes.
Yourself like that, you hurt your knees. I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world.
En direct sur Campus FM, on vient d'écouter Volcano par Damien Rice sur son premier album O, sorti en 2002.
Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout.
Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.
Rien c'est déjà beaucoup.
Et nous sommes toujours en compagnie de Galen Stoff, j'y arrive pas, artiste-directeur. Alors on dit artiste-directeur, c'est chic ça.
Oui,
mais c'est parce que vous disiez tout à l'heure, parce que faut que ce soit un artiste.
On s'est dit que ça sera bien de conserver la notion d'artiste, parce que on donne un CDN à un artiste justement pour qu'il puisse se déployer et oser faire des choses que normalement dans sa pratique habituelle il fera jamais, parce qu'il n'y a pas toute une maison derrière son dos pour le soutenir, mais aussi l'idée c'est aussi de partager l'outil avec d'autres artistes qui font partie de sa famille ou de ses alliés, ouais. Je dirais.
Donc artiste directeur du Théâtre de la Cité à Toulouse et metteur en scène de la pièce qui se joue en ce moment, Insoutenable Longues étreintes, c'est à découvrir jusqu'au 21 décembre, mais c'est complet.
Il y a toujours quelques places qui restent.
Il n'y a pas de strapontin en revanche au cube.
Non, je pense pas, mais toujours il y a des places qui restent. Ouais. Ouais. Alors il faut venir vérifier, passer un moment au hall de la cité, le bar, les espaces de vie qu'on vient d'ouvrir, voilà, découvrir.
Voilà,
parce
justement,
qu'il y a une chose qui se passe.
Vous avez un restaurant, un salon de thé, un forum, donc vous appelez ça les halles de la cité, avec des petites loges conçues comme un marché, avec du fromage, des sushis, de la charcuterie.
Oui, c'est assez sympa. Bon, le restaurant n'est pas encore ouvert, on espère qu'en janvier, il va commencer à fonctionner, mais ça sera voilà avec une terrasse végétalisée, ça sera ouvert sur la rue.
Au rez-de-chaussée alors?
Non, pas au rez-de-chaussée. Si, au rez-de-chaussée, tout à fait, ouais, sur la rue. Ouais.
Et il y a des ateliers, des expositions, des lectures, des concerts et des soirées, notamment là.
Oui, ça, il faut consulter en fait le site de Théâtre de la Cité parce qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est pas dans un ordre régulier. Il y a des préambules avant le début de certaines représentations pour donner les clés aux spectateurs, comment lire, comment regarder les spectacles présentés. Il y a des lectures qui se font le 19 décembre, par exemple. Il y a Nicolas Gonzalez, un des comédiens d'Insoutenables Langues Étreintes, qui vient de sortir un recueil de poèmes. Il va lire une partie de ses poèmes avant la représentation en bas dans la tour romaine. Et puis voilà, non, il faut se renseigner sur le site.
Il y a une librairie aussi en partenariat avec la librairie Ombre Blanche.
Tout à fait, avec une sélection assez intéressante des livres, des propositions qui sont liées aussi aux propositions artistiques de la programmation.
Et j'ai noté une raclette suisse.
C'est ce soir commence. Oui, mais ça n'a pas encore commencé. Je pense que ça commence dans 2 heures.
C'est pas avec Vol d'Usage ?
Tout à fait, c'est Vol d'Usage qui joue dans la salle. Et comme c'est une compagnie franco-suisse, et comme D'accord. aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est la journée internationale de la raclette. Mondiale, voilà. La journée mondiale.
Formidable.
Alors, on est tous, voilà.
Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de journée internationale de la raclette, pardon. Alors, la programmation, vous dites la vouloir pas élitiste, mais pas populiste. Entre les deux.
Oui.
Faut que vous nous expliquiez ça.
On vit dans une époque où on met les étiquettes très, très facilement. Et pour faire des étiquettes, pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus facile et parce que ça donne, soi-disant, une attitude aux journalistes, aux médias, envers quelque chose qui n'est pas, comment dire...
Attention à ce que vous allez dire sur les médias.
Accessible. Oh, je peux parler beaucoup, j'ai une grande gueule. Mais non, je parle en fait, oui, de quoi s'agit-il? Il y a une tendance dans les dernières 20 années de digérer tout ça et de faire le travail du spectateur pour que ça soit plus facile pour lui. Et paradoxalement, de le rendre plus bête, justement parce qu'on lui dit ça, c'est ça, et alors c'est réglé. Tout le travail est fait pour toi. Et moi, je suis très sensible au fait de ne pas traiter nos publics comme des abrutis. Je le dis, voilà, c'est un gros mot, mais je pense que le public est toujours beaucoup plus intelligent que nous on puisse imaginer au premier lieu. Et je pense que le théâtre est un des arts les plus démocratiques possibles. Et il ne faut jamais oublier ça. Alors, il faut revenir à la source et bien évidemment faire un éventail de propositions assez large pour que chacun puisse trouver sa place. Mais justement, ne pas s'axer sur un certain public, mais plutôt parler des publics et encore aller plus loin, chercher parmi des strates dans la société ou des gens qui se considèrent pas forcément comme un public potentiel de théâtre, justement aller et faire des propositions et ouvrir et démocratiser le processus, non fût-ce que de rentrer dans le théâtre. C'est pour ça d'ailleurs on a changé TNT, le Théâtre National de Toulouse, qui fait
vous
peur.
Avez imaginé justement lâcher ce nom de théâtre avec son grand accent circonflexe au milieu là.
Oui, il y a plusieurs raisons pour cela. En fait, au départ, on pensait pas forcément changer le nom. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on est en train de changer quand même avec le nouveau projet le ADN de l'édifice, du bâtiment, de l'idée. Et là, on s'est dit, la première chose qui manifeste une nouvelle identité, c'est le nom. Et on a commencé à chercher, on cherchait, et on trouvait rien. Et un jour, on s'est rendu compte que, sur le bâtiment, c'est écrit Théâtre de la Cité depuis le début. On s'est dit, voilà notre nom. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on a lancé. Et puis, dans Théâtre National de Toulouse, la notion de Centre Dramatique National n'existait pas, même dans le nom. Après, c'était jamais un Théâtre National. Théâtre National, c'est un statut particulier. Il y en a 5 en France. Et c'était jamais vraiment un théâtre national. Et puis TNT, c'est un explosif. Et on s'est dit, allez, trouvons quelque chose qui est un peu plus sympa.
Entre vous, vous l'appelez comment? Vous dites le TC, la cité
La cité ou Théâtre Cité. Mais la cité, ça me plaît. La cité, ça me plaît.
Alors, vous parlez d'ancrage territorial fort dans un rapport pérenne aux spectateurs et aux partenaires. Et vous en parlez par rapport à votre pratique théâtrale qui pourrait se régénérer, s'enrichir, déployer tous ses possibles et faire pleinement sens. Quel est le lien entre la direction du théâtre, de la cité, et votre pratique théâtrale, justement? En tant que metteur en scène, je suppose que vous avez dit ça.
Oui. Tout à fait. C'est un passage entre ces deux pôles qui est assez particulier parce que ça se joue sur une file, sur un fil. Déjà quand j'ai décidé de postuler, il y a beaucoup de d'amis et de professionnels qui m'ont dit fais gaffe parce que tu peux te faire facilement bouffer par toutes tes responsabilités de directeur et tu peux facilement arriver à un point où tu n'arrives plus à créer, justement parce que tu es épuisé par le reste. Et là, c'est un exercice au quotidien, en fait. Tu marches sur un fil, il y a le gouffre en dessous et tu essaies de ne pas tomber, ne pas regarder trop dans le gouffre. Mais en fait, ce qui t'aide énormément, c'est l'équipe qui est autour de toi. Et si tu arrives à venir vraiment avec un projet intéressant, et les convaincre et expliquer le projet, les gens sont extrêmement réactifs et très sensibles par rapport à ce que tu leur proposes parce que au bout du compte les gens n'attendent que ça. Les équipes ils n'attendent de régénérer le sens, de donner du sens et ça doit être un sens qui nourrit pas une idée de sens mais quelque chose de palpable et vrai. Et dès que tu arrives à transmettre ça, ben les gens sont au rendez-vous et j'ose dire que j'ai peut-être le meilleur équipe de tous les théâtres en France, en Europe et peut-être sur cette planète.
Vous travaillez donc en duo avec Stéphane Gilles qui est votre directeur délégué. Quel est son rôle et par rapport à vous?
Stéphane Gilles, on s'est rencontrés pendant que je postulais pour la direction de Théâtre de la Cité, à l'époque TNT. Et normalement, un artiste, quand il débarque dans un nouveau lieu, c'est bien de venir avec quelqu'un qui l'accompagne et qui peut gérer tout ce qui, pour un artiste, est du chinois, je dirais, ou quelque chose de complètement incompréhensible. Et en parlant avec Stéphane, au bout de d'une demi-heure, je me suis rendu compte que devant moi, j'ai quelqu'un qui maîtrise parfaitement toute la matière qui pour moi, déjà, je la connais pas, elle me fait peur.
Concrètement, vous parlez de...
Comment structurer un processus, comment parler aux élus, comment convaincre les équipes, les spectateurs, comment chercher de l'argent, comment gérer les coupes budgétaires, comment gérer l'horreur du monde, voilà, je dirais.
Merci Stéphane.
Voilà, merci Stéphane. Et Stéphane est apparu et c'est quelqu'un qui est... Moi je pense que j'ai énormément de chance parce que moi je peux sortir une idée genre mine de rien comme ça, mais ça vaut absolument rien parce que ça reste une idée immatérielle et quand devant toi tu as quelqu'un qui peut prendre cette idée pendant qu'elle s'envole comme ça dans l'air et la faire descendre dans la matière et convaincre l'équipe autour de travailler pour cette idée et quand au bout de 9 mois ou 11 mois on voit cette idée matérialisée comme par exemple au 3e étage si vous venez un jour je vais montrer
on
ça.
On ne peut pas monter avec Vincent.
Oui parce que c'est interdit.
Ah bah oui pardon.
Mais là au 3e étage on a construit des logements pour les artistes justement parce qu'on a cette idée du cube et on s'est dit ça veut dire qu'on doit accueillir des équipes pendant des périodes un peu plus longues et moi quand j'ai vu combien on dépense pour les loger chez Airbnb ou voilà. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse des économies, justement, dans un moment où qui est difficile financièrement parlant. Et là, on s'est dit, on va faire des logements.
Il y avait quoi là-haut, au troisième?
Il y a des bureaux. Et on a réussi à convaincre tout le monde de descendre au deuxième étage avec d'autres bureaux. Maintenant, on se sert dans des bureaux un peu plus petits. Et on a libéré entièrement le troisième étage. Au départ, on nous a dit, vous êtes fous, personne ne va vous permettre de construire des logements dans un théâtre. Moi, comme un Bulgare obstiné, je me suis dit, non, ça va marcher, ça va marcher. Et puis, grave. Et derrière tout ça, il y avait l'équipe qui défendait le projet. Et maintenant, c'est l'étage le plus magnifique possible et tout le monde veut y aller, sauf que c'est interdit parce que c'est pour les équipes qui travaillent actuellement au théâtre et ceux qui peuvent être logés là-bas.
Un mot court sur Toulouse, Galinstov, qui vous a séduit, évidemment, vous pouvez pas dire le contraire.
Non, je peux pas dire le contraire parce que c'est trop tard maintenant. Mais surtout, écoutez, en fait, c'est pas évident de débarquer dans une ville. J'ai plus 20 ans. Et je débarque dans une ville où je connais personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de repères, et dans une ville où les cercles sont un peu construits et fermés déjà. Et après, dans mon quotidien, moi, je passe beaucoup de temps, soit on répète, soit au théâtre. Je reste pour la représentation, je rentre chez moi un peu avant minuit et je m'écroule. Mmh. Voilà, c'est un peu ça, mes journées. C'est assez triste, en fait, quand je raconte comme ça. Voilà, triste et solitaire. Mais j'ai pas pu découvrir beaucoup de Toulouse en dehors du centre et les alentours de théâtre.
Sur la programmation, vous avez pensé aux Toulousains, j'imagine.
Tout à fait. Mais c'est un autre travail. Ça demande pas tellement de te promener dans Toulouse, mais de recevoir en fait les compagnies et les artistes qui sont basés à Toulouse. Mais sinon, quand je me promène, moi je me sens encore comme dans un musée parce que c'est tellement beau et tu te dis, mais c'est magnifique, mais regarde ce qu'il y a ici. Mais j'ai pas vraiment des ancrages dans la ville. Alors, s'il y a des âmes solitaires comme moi et qui nous écoutent, venez me parler, et peut-être on peut devenir amis.
La nuit. Vous avez le temps. Nuit, ouais. Alors, une dernière question, j'en ai beaucoup d'autres, mais le temps me presse. Casser les codes du théâtre, c'est aussi mettre en place de nouveaux tarifs.
Ouais.
C'est ce que vous avez fait.
Vous voulez parler d'argent? Là, ben je suis
oui.
pas du tout préparé.
Non, je veux pas parler d'argent. Je veux dire, c'est des gens qui ne viennent pas au théâtre, c'est aussi parce que ça coûte plus qu'une place d'un cinéma, plus que d'un resto que vous avez nommé, que je ne nommerai pas.
Ou pas toujours. Pas toujours. Il faut jamais oublier que le théâtre public est public justement parce qu'il y a une subvention de l'État qui permet de rendre l'entrée un peu plus accessible. Ça veut dire pas aussi cher. Dans ce sens, oui, le théâtre public perd de l'argent, mais justement parce qu'il y a la subvention qui vient compléter tout ce que le public ne peut pas se permettre. Et puis, on a des formules. On a inventé une formule pour des jeunes, pour seulement 8 euros. Il y a des places pour 13 euros. Encore une fois, pour les âmes solitaires qui nous écoutent et qui vont pas au théâtre, allez sur le site de Théâtre de la Cité. C'est théâtre-cité.com. Voilà, et là vous pouvez découvrir toutes les informations aussi bien que la programmation.
Alors je vous cite une dernière fois pour finir. Vous rêvez d'un théâtre qui fonctionne comme une cité, qui nous permette de vivre et de créer librement, de rester émerveillé. C'est un mot qui revient souvent, l'émerveillement, et de produire du sens. Et on a bien envie de rêver avec vous. Merci infiniment, Galinstov, d'être venu faire un tour dans Rien à voir quoique. Je remercie également Dominique Arnaud, qui est caché à côté de moi, chargé des relations presse à la préparation de cette interview. Donc je rappelle que votre pièce est à découvrir jusqu'au 21 décembre et toute une programmation. Ah oui, je voulais citer le graphiste aussi, qui a fait un très beau travail.
On est très fiers.
Et son nom est dans mes papiers.
Pierre Vanny,
absolument.
Pierre Vanny qui
magnifique.
Vient de Toulouse.
Oui, qui a fait un travail en ombre, c'est magnifique. Donc le site, théâtrecité.com, rien à voir quoique, eh bien nous n'écoutons pas de morceaux. On va écouter Vincent après un jingle, François.
Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps.
Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Ça va Vincent ?
Oui, bonsoir Anna. Alors moi, au lieu de changer de sujet, je vais revenir sur la pièce en fait de Galine Stoé, parce que je l'ai vue, on l'a vue, on en est sortis aussi émerveillés l'un que l'autre. Alors je vais commencer en reprenant un tout petit bout de cette pièce, un petit passage qui dit « Monica a 30 ans et, pour la première fois, elle sent clairement que son enfance appartient au passé ». Alors Monica, vous l'aurez compris, c'est l'un des quatre personnages de la pièce et, tout comme ses trois camarades Charlie, Christophe et Amy, Monica a la trentaine donc, et pourtant elle ne sait pas très bien ni qui elle est ni où elle va. Ça fait maintenant 10 ans que ces quatre-là n'ont plus 20 ans, 10 ans qu'ils dérivent à la recherche d'eux-mêmes dans cette zone trouble entre l'adolescence et l'âge adulte, pris dans les tourments d'une crise identitaire qui, en fait, selon les sociologues, est assez caractéristique des générations qui ont eu 20 ans en gros après les années 70. Alors il faut dire aussi, à leur décharge, que naguère, tout était plus simple. Dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme, les événements qui marquaient traditionnellement le passage à l'âge adulte, la fin des études, l'entrée sur le marché du travail, le départ du domicile familial, la mise en couple, voire le mariage, naguère donc ces événements coïncidaient plus ou moins, ils arrivaient à peu près en même temps. Or aujourd'hui, non seulement ils ont un peu perdu de leur valeur symbolique, et là je pense au mariage, mais en plus, ils s'étalonnent désormais sur une longue période que l'on appelle un peu vaguement la jeunesse, qui commence vers 18 ans, et qui pour certains peut durer très 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 longtemps. Et être, comme dans le cas de Monica donc, d'autant plus angoissante qu'aujourd'hui, à l'heure de la société individualiste, on attend beaucoup de ces jeunes. On attend qu'ils se prennent en main, qu'ils formulent un projet de vie, entend-on parfois, comme si, dirait Franck Lepage, vivre ne suffisait pas. Bref, qu'ils s'affirment, qu'ils trouvent leur voie, qu'ils se singularisent, autant d'injonctions qui, à peine sorties de l'adolescence, ont de quoi effrayer et faire un peu, comme pour Charlie, Monica, Christophe et Amy, perdre les pédales. Alors dans la sociologie, je viens de le dire, mais aussi dans la littérature ou le cinéma, eh bien la crise existentielle du jeune entre 20 et 35 ans est finalement assez bien documentée. Et on se rend compte que pour traverser les remous de cette recherche identitaire un peu imposée, eh bien tout le monde n'a pas la même stratégie. Il y a, premier cas de figure, le téméraire, vous savez, ce jeune adulte qui part à la conquête du monde, part à la conquête de lui-même, pardon, d'abord en partant à la conquête du monde. Alors ce personnage, par exemple, c'est celui d'Into the Wild, rappelez-vous le film de Sean Penn il y a quelques années, et inspiré de la dramatique histoire vraie hein, du jeune Christopher McCandless, qui, récemment diplômé de l'université, décida du jour au lendemain de tout plaquer pour entreprendre ce long voyage à travers les États-Unis et le Canada, jusqu'à la malheureuse fin qu'on lui connaît. Alors je pense à Into the Wild, mais il y en a bien d'autres, hein, des histoires comme ça, qui sont en fait des variations sur un vieux thème, le vieux thème du voyage initiatique, qui est une figure mythique du passage à l'âge adulte, et qui s'appuie sur un certain idéal du voyage, un idéal qui voudrait que les voyages forment la jeunesse et qu'au bout de la route, ce soit soi-même que l'on trouve enfin. Alors à l'opposé du voyageur téméraire, il y a au contraire le jeune adulte qui refuse de grandir, celui qui, effrayé par les responsabilités de l'âge adulte, rebrousse chemin et se recroqueville dans le cocon douillet de l'enfance. Certains psychanalystes appellent d'ailleurs ce comportement le syndrome de Peter Pan, un syndrome dont on a pensé un temps que Michael Jackson était particulièrement atteint. C'est vrai, on avait beaucoup dit ça à l'époque, parce qu'il s'était inspiré de Neverland, rappelez-vous le pays imaginaire où les enfants ne grandissent jamais dans l'histoire de Peter Pan, pour construire son propre Neverland dans son ranch, un parc d'attractions privé où il aimait à se réfugier pour tenter de vivre, disaient les commentateurs, l'enfance insouciante dont il aurait été petit, privé par un succès trop précoce. Donc ces jeunes-là sont de grands enfants, et d'autres sont de grands adolescents. Et là je pense aux fameux adolescents, ces adultes bloqués dans des comportements immatures, rechignant même parfois à prendre leur indépendance, à quitter le confort bien commode, il faut dire, du domicile familial. Et là, rappelez-vous, par exemple, le personnage de Tanguy, éternel étudiant de 28 ans, qui use de tous les stratagèmes, c'est très rigolo, pour repousser indéfiniment le jour de son départ, aux grandes dames de ses parents qui n'en peuvent plus de faire son lit et trier ses chaussettes. Et puis, enfin, dernière figure de la crise de jeunesse qui correspond peut-être le mieux au personnage d'insoutenables longues étreintes, c'est celle de la fuite en avant, ces jeunes adultes qui, face au poids de l'angoisse et de l'incertitude, eh bien, se mettent à multiplier les expériences de toutes sortes dans une recherche de sens un peu erratique, un peu désordonnée et puis souvent dangereuse. Alors là, on peut penser, autre exemple, à Jack Kerouac et à la Beat Generation, cette génération désillusionnée qui erre sans but à travers l'Amérique et dont le quotidien est essentiellement rythmé par l'alcool, la drogue, le sexe, dans une surenchère de sensations fortes qui les amène parfois à frôler la mort dans l'espoir un peu désespéré de se sentir un jour peut-être enfin vivant. Et c'est un peu... peut-être, c'est ma lecture en tout cas, ce que vivent donc Monica, Charlie, Christophe et Amy. Voilà 10 ans qu'ils n'ont plus 20 ans, disais-je, 10 ans qu'ils meublent leur vie de plaisirs futiles et de relations superficielles, et quand au détour de la trentaine, eh bien, ressurgissent leurs doutes et leurs vieux démons, arrive la crise, les voilà qui plongent profondément au fond d'eux-mêmes, jusqu'à faire l'expérience assez crue de leurs propres limites, on en parlait tout à l'heure. Et pourtant, dans cette longue descente aux enfers, mais subsiste toujours une lueur d'espoir, subsiste toujours une vague conscience qu'au-delà de la crise, une autre vie est possible. Alors pour illustrer, je vais terminer comme j'ai commencé, en citant de nouveau ce passage de la pièce qui dit « Et soudain, Monica grandit. Elle sent que ça vient juste d'arriver. Elle a 30 ans et pour la première fois de sa vie, elle sent clairement que son enfance appartient au passé. Maintenant, elle est véritablement une femme adulte qui a réussi à acquérir l'estime d'elle-même. Monica a 30 ans et, maintenant, elle atteint la lune et devient aussi argentée que la lune elle-même. »
Donc il est l'heure de se quitter. Est-ce que Malcolm Mike est déjà dans les parages? Ah mais il n'est pas arrivé, voilà. Un grand merci à notre invité Galine Stoff, nouvelle artiste directeur du Théâtre de la Cité. Merci beaucoup Vincent pour ton instant éducation, on n'a pas eu le temps de réagir dessus. Merci François à la réalisation technique de l'émission. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver le Mixcloud de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM, pardon. Il semblera que ce soit la dernière émission de l'année. On se retrouve l'année prochaine.
L'année prochaine.
En 2019. Pour l'heure, je vous laisse avec Malcolm Mike, qui n'est pas encore là, Malcolm Mike, pour une nouvelle émission gourmande de Nu Soul Food. C'est du New, c'est de la Soul, c'est de la Food. Très belle soirée sur les ondes de Campus.